Eh bien, bonjour à toutes et tous. Annonce importante avant de commencer. Depuis notre reprise de l'émission, le 8 février, nous n'avons pas annoncé à cette occasion que dorénavant, vous pourrez écouter l'émission des lessiveuses une semaine sur deux, contrairement à l'année dernière où l'émission était hebdomadaire. Donc, changement de planning qui nous permet de plus larges plages de respiration pour la préparation de nos chroniques. Néanmoins, le créneau horaire reste le même, de 14 à 15 heures. Aujourd'hui, Julie ouvrira cette émission par des lectures, lectures de textes écrits de sa main et des extraits du livre « Carnet intime » de Sylvia Plath pour faire entendre, à coup de juste mots, une maladie encore trop stigmatisée, la dépression. Et après une pause musicale, Laura nous proposera un petit week-end évasion en Corrèze pour mieux retrouver votre être profond et votre place dans ce monde chaotique.
Bonjour Lucie, bonjour Laura, bonjour à toutes et à tous. Alors les rares fois où je suis venue à Canal Sud, c'était pour parler de littérature islandaise ou pour bégayer de la poésie. Et je suis très contente de revenir aujourd'hui pour hésiter dans ce micro. Et donc pour fêter ce retour triomphal, je me suis dit quoi de mieux que de parler de la dépression. Alors maintenant que j'ai lâché le mot, c'est le moment de vous prévenir, je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale, je ne suis pas psychologue. La dépression, c'est une maladie courante. Même pour citer l'OMS, c'est l'une des principales causes d'incapacité dans le monde. Donc autant vous dire qu'on est beaucoup. Alors je ne vais pas vous sortir des chiffres, je ne vais pas faire une étude scientifique. Si j'en parle, c'est de façon très subjective, très personnelle et en tant que personne concernée pour partager tout simplement des livres qui m'ont aidée à un moment où je n'avais pas la force de demander de l'aide. C'est aussi le bon moment pour faire un petit trigger warning, parce que la dépression, c'est un sujet sensible et que les textes que je vais lire évoquent des émotions violentes. Donc je comprendrai très bien que ça soit trop brutal pour un mercredi après-midi. Donc sentez-vous libre de partir, puis de revenir dans une quinzaine de minutes pour la chronique de Laura, qui nous fera du bien à toutes et à tous. Enfin, je crois. Alors j'ai eu envie de parler de la dépression parce qu'elle m'accompagne depuis un petit moment maintenant. J'ai un traitement d'antidépresseur qui m'y fait penser tous les soirs. J'ai une petite pensée émue en allant me coucher. Je me dis tiens, c'est vrai que j'ai besoin de cette petite gélule pour ne plus avoir envie de crever. Je crois que j'aime beaucoup parler de la dépression parce qu'à chaque fois ça provoque des réactions intéressantes. Ça peut parfois installer un bon gros malaise. C'est arrivé que les gens changent de sujet dans un petit mouvement de recul. Comme si le simple fait d'en parler, ça me rendait contagieuse ou je sais pas. Mais je crois que si cette maladie, elle est aussi stigmatisée socialement, si elle provoque du rejet, du mépris ou des fois même du dégoût, c'est parce qu'elle fait peur et parce qu'elle dérange. Je crois qu'en tant que personne dépressive, nous sommes l'épreuve plus ou moins vivante que quelque chose cloche, que c'est très difficile de se sentir bien dans un système qui part en vrille. C'est une maladie qui fait peur parce qu'elle peut concerner tout le monde, et que c'est difficile de la soigner parce que on connaît franchement pas grand chose des traitements, qu'ils ont des effets complètement différents d'une personne à l'autre, mais aussi parce que c'est tout bêtement difficile d'être diagnostiqué, d'accéder à ces traitements et d'avoir accès à un psy compétent. Du coup, moi j'avais envie de vous partager des textes qui m'ont fait du bien parce que je m'y suis reconnue et je pense que s'identifier dans les récits des autres, ça fait un bien fou. Parce que la dépression, c'est quelque chose qui nous plonge dans un état qui nous isole complètement du reste du monde. Et je me dis que si certaines personnes qui nous écoutent peuvent se reconnaître et se retrouver dans ces textes et dans ce que je raconte, et peut-être se sentir un peu moins seules, ça vaut le coup de casser un peu l'ambiance. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler d'une BD qui s'appelle « C'est comme ça que je disparais », écrite par Myrion Mal et publiée en 2020 aux éditions La Ville Brûle. Et je voulais absolument en parler parce que l'effet de cette BD est assez incroyable. J'en ai parlé avec plusieurs amis qui ont eu la même expérience que moi. On a commencé à la lire en se disant « Tiens, c'est chouette, une petite BD sympa, ça va passer le temps. » Et on se retrouve à pleurer toutes les larmes de notre corps, tellement c'est douloureux et apaisant à la fois de s'y reconnaître. Et voilà, je trouve que Myrion Mal, j'ai évité d'écorcher son nom. Je trouve qu'elle parle de la dépression avec beaucoup de justesse. Et voilà, c'est vraiment une lecture que je conseille soit aux personnes concernées par la dépression ou même qui ont des proches concernés. Et c'est vraiment une lecture qui ne laisse pas indemne. Je pense que ça montre aussi le pouvoir et l'importance de la représentation des maladies mentales dans l'art, parce que s'identifier à des récits, c'est se rendre compte qu'on n'est pas seul et que d'autres traversent les mêmes épreuves et arrivent à s'en sortir, ce qui est quand même pas mal. Ça rajoute un petit peu d'optimisme, quoi, on va dire. Alors pour commencer les lectures, je voulais lire des extraits d'un roman de Lou Darsan qui s'appelle L'Arrachée Belle. Donc je vais lire deux extraits. Elle s'ennuie avec application et prend soin de ne rien faire. Elle évite de lire pour ne pas être stimulée et cultive l'atonie. Elle ne cuisine pas parce qu'elle ne sait plus quels ingrédients l'homme apprécie. Il la reprend avec douceur quand elle se trompe, mais elle préfère le silence. Elle joue à ne plus être elle-même. Elle s'améliore, elle est douée. Il ne remarque pas qu'elle s'absente. Il la trouve paresseuse. Il éprouve presque du dégoût. Il lui cherche des occupations. Il la soigne en multipliant les marques d'attention, la nourrit de viande rouge qu'elle avale en souriant. Il la décore et la corsette. Il pense que le sperme fait la peau plus belle et soigne la dépression. Les magazines le répètent tous les mois. On parle de ciment du couple. Il lui offre du rouge à lèvres. Elle le remercie. Elle opère en silence son ablation du monde, espérant ainsi ne plus en subir l'absurdité nauséabonde, échapper à sa mécanique, à sa douloureuse absence de rationalité et de bienveillance, sans se rendre compte que cet éloignement la sépare d'une part essentielle d'elle-même. Sa vacuité lui apparaît évidente, inéluctable. Une vue d'elle en coupe révélerait le vaste réseau de sillons que la dépression a creusé en elle, drainant son énergie. Elle s'imagine comme une termitière abandonnée, parcourue de longs couloirs vides, ou un fruit piqué, dont les deux minuscules trous de verre qui percent la peau ne présagent qu'à peine le désastreux labyrinthe intérieur, où la larve a grandi avant d'éclore et de s'envoler. Elle a conscience que l'apathie qu'elle cultive est un refuge précaire, que la léthargie l'engourdit sans l'assommer tout à fait, que les rayons de soleil et les cris des oiseaux de mer ou les lumières des voitures et les odeurs de la ville se succèdent en secousses, réveils et piqûres. Et donc ça, c'est un deuxième passage qui est quelques pages plus loin. La colère et la révolte subsistent, bien que leur sens n'apparaisse pas de façon limpide. Les mauvais jours, une colonne qui traverse son corps part du ventre, bloquée dans sa gorge. Pousse, mais ne peut sortir. Faite de mots et de violence, de mots de violence, de boucles de spirales qui descendent, s'enfoncent dans son ventre parce que sa gorge est serrée, une porte close. Elle s'abîme à vouloir l'ouvrir. Il faudrait faire sauter les verrous grippés. Mais c'est comme tourner une vis dans le mauvais sens, ça se resserre et fait bloc. Le corps à la suite fait bloc. Pour briser la colonne, pour l'extraire, il faut casser quelque chose. Un bris, une douleur vive, meurtrir la surface pour s'arracher des profondeurs, émerger, de ne plus être statue, ni bloc, ni muret. La conscience qui se cogne contre les parois du corps, sur les parois du corps. Tous ces mots hurlés, fracassés, jetés qui rebondissent. Le tremblement fissure, lézarde, un tremblement terrible, une secousse, qui brise, qui arrache, qui rappelle au corps qui n'est plus bloc, mais saccade, que seul le cri, haché ou les flots peuvent ralentir. Or les flots ne nettoient pas, ils détachent les lambeaux, leur violence transmute la rage d'être bloc en douleur, d'être lambeau arraché. Une violence qui éreinte, une déconnexion entre l'intérieur et ce qui entoure. Un voile neutre qui recouvre tout, un brouillard, une neutralité, la tentation de l'intérieur. Mais couper tout, couper l'écran, éteindre, pause. Il faudrait que le vide laissé par la colonne devenue bloc ne soit plus vide, mais souffle. L'air manque. Et elle gît béante dans l'attente de la suture. Ces jours qui la drainent sont eux-mêmes vidés de leur substance par la violence de la suffocation. Le canapé accueille sa léthargie d'après la secousse, alors que la pensée ne sait plus se fixer sur les objets ou les tâches quotidiennes, achoppant sur les cartes postales que sa mémoire collectionne. Souvent, sans coquillage contre l'oreille, le ressac la berce. Elle n'a plus vu la mer depuis le retour de la baignade, mais son bruit l'obsède. Lorsqu'elle ferme les yeux, son lit tangue, ballotté par les flots. Les murs de la chambre oscillent avec le vent, la fenêtre grince, dehors quelque chose claque contre le volet. Le vertige la saisit. Ses rêves se noient sous les lames de fond. À la lisière du sommeil, la mer gonfle, enfle, s'abat sur les voitures, les routes et les immeubles, avec fracas et fureur, dans un grondement terrible. Le sol de la chambre penche, le lit glisse, la roule vers l'eau, le sable, les algues. Toute la nuit, les vagues menacent. Elle repense à la baignade, au sel qu'elle ne voulait pas enlever de sa peau. Elle léchait son épaule et son avant-bras pour retrouver le goût des vagues, puis la douche avait tout effacé. Mais le sommeil avait fixé le souvenir. L'appartement est de moins en moins supportable. Les journées longues et vides, envisagées séparément, ne laissent aucune trace. Mais leur somme monotone ronge sa chair à vif, vrille sa gorge, creuse dans son torse une dépression cyclonique, un embryon d'ouragan qui l'obsède. Le deuxième livre dont je voulais lire des extraits, c'est Les carnets intimes écrits par Sylvia Plath de 1952 à 1963. Où là encore, en fait, la description qu'elle fait de la dépression m'a frappée, m'a parlé, m'a vraiment touchée. Donc elle écrit « Le plus horrible, c'est le repli soudain du monde phénoménal, qui ne laisse rien derrière lui, que des lambeaux. Des corneilles humaines qui crient à l'imposture. Heureusement que je me lasse et que je peux dormir. Dans ces conditions, tout est possible. » Et j'aime manger, j'aime marcher et j'adore la campagne ici. Seulement, ces éternelles questions n'arrêtent pas de frapper à la porte de ma réalité quotidienne, à laquelle je m'accroche comme une maîtresse insensée. Des questions qui ramènent cet univers sombre et dangereux où tout est identique, où il n'y a pas de distinction, pas de différence, pas d'espace et pas de temps. La respiration sifflante de l'éternité. Pas celle de Dieu, mais celle du démon qui dit non. Et c'est en fait c'est cette image de la dépression comme un démon qui dit non qui m'a vraiment parlé et ça m'a rappelé un texte que j'avais écrit en mai dernier où j'étais clairement en pleine dépression. Et je l'avais écrit dans les notes de mon téléphone, donc c'est, ce qui est génial c'est qu'on peut avoir l'heure, j'ai écrit ça à 1h14. Et dire. J'ai écrit « Je n'ai pas vu Toulouse en avril, j'ai cru disparaître. J'ai disparu, j'avais envie de disparaître et l'envie est encore là, sans raison. Juste comme ça, juste pour dire non au monde, à ce qu'on attend de moi, dire non à tout ce que j'aurais pu être à Toulouse en avril. » Donc voilà, j'ai retrouvé cette même image de dire non et ça m'a... j'ai eu un espèce de flashback. Tiens, j'avais pas écrit ça une heure du mat.
C'est un peu le même titre aussi que la BD...
Ouais, c'est
comment
vrai.
Je disparais.
Ouais, on reste sur les mêmes thèmes, le refus, la disparition...
Ouais, c'est...
Très sympa. Donc la dépression, un démon qui dit non. Non à cette douleur dans la poitrine, non à l'insomnie, non à l'épuisement, non à la routine, aux angoisses, aux regards, aux jugements, aux rumeurs, non. Non au salut ça va, bah non. Non aux explications, non à la voix, non aux mots des autres qui blessent, qui déçoivent, non à la déception, à tout ce qui reste blesse et tout ce qui traumatise, non à tous les efforts qu'il faut faire pour guérir, non aux rêves, non aux plans d'avenir, non aux essais, non au fait d'essayer encore. Et vu que depuis ça va quand même un peu mieux, je me suis dit qu'est-ce que ça serait l'inverse de ça, qu'est-ce que ça serait à quoi je dis oui en fait. Voilà, j'ai pas trouvé une meilleure façon de formuler ça. Et donc, à partir de ça, j'ai écrit ce texte. Oui, au fait de disparaître le temps d'une sieste plutôt que de disparaître tout court, parce que bon, c'est quand même moins triste, moins embêtant d'un point de vue administratif. Oui, au risque de s'en prendre plein la gueule. Oui, à la colère saine qui s'attaque aux agresseurs. Oui, à l'autodérision qui rappelle tous les jours que la vie n'est qu'une vaste blague et que ça serait quand même con de pas en rigoler un peu. Oui, aux réponses. Oui, au fait de répondre quand on m'emmerde, quand on me traite comme un petit truc méprisable. Oui, au fait de dire « Allez vous faire voir quand c'est injuste, quand c'est trop, quand c'est de la bêtise, de la méchanceté, de la jalousie absurde. » Oui, au fait de dire « Je m'en vais, je suis fatiguée. » Oui à la fatigue, oui au repos bien mérité en toutes circonstances, parce qu'après tout, pourquoi je ne mériterais pas le repos en toutes circonstances, bordel de merde? Pourquoi ça serait honteux d'avoir besoin de calme et de repos vu l'état du monde, vu l'immense bordel de la vie? Ça va, oui. On peut encore faire la sieste, même sans taf, même sans écrire, même sans avoir passé l'aspi, je suis fatiguée, lessivée, ils m'ont lessivé la gueule encore et encore, et ça continue, ça ne s'arrête jamais. Et je dors pas la nuit, le sommeil s'y met aussi, ça va, oui, bon. Oui, aujourd'hui, c'est plus simple. C'est plus simple, ça n'a jamais été aussi simple de chanter fort, même faux, de danser souvent et n'importe quand, jamais aussi simple d'aimer si fort tout le temps, et plein de gens, simple d'être seul de temps en temps, simple de voyager et de dépenser comme si j'allais mourir demain, simple de vouloir être en vie demain, simple de dire oui à la suite, simple de lui prendre la main, simple de serrer fort un ami, simple de rester, simple d'être là. Simple de rester sous la pluie, l'euphorie au ventre, simple de me dire c'est ça la vie, c'est ça que j'ai raté tout ce temps, c'est tout ça que je rattrape aujourd'hui.
Bah, merci beaucoup Julie pour cette chronique incroyable et pour ton retour sur Canal Sud. On est très contente de te recevoir à nouveau. Je vais vous présenter un bon petit plan escapade pour le week-end en Corrèze. Faudra juste signer un papier de confidentialité. Laissez toutes vos affaires personnelles à l'entrée. Vous bandez les yeux. Et répondre désormais non plus à votre prénom, mais à un numéro. Numéro 6, par exemple. Voilà. C'est très bien, simple, rapide, efficace. On ne s'emmerde pas avec les formalités d'identité. Et justement, l'identité, c'est le cœur du programme de ce week-end. Alors, découvrez à travers diverses activités sportives J'ai l'impression qu'on m'entend pas très bien, donc je me permets d'augmenter un petit peu le son.
Ouais, voilà. Tu peux monter un petit peu.
On est tout à fait honnête avec vous, on est en direct. Les aléas du direct, voilà. Je gère et le micro et ma chronique. Respectez-moi. Alors, pour en revenir à notre fameux week-end, je vous propose en effet de découvrir à travers diverses activités sportives, notamment déplacer à main nue le grand chêne à terre devant la porte d'entrée, confier vos sentiments sur les profonds bouleversements que connaît notre société aujourd'hui et retrouver votre place en tant qu'homme sur Terre. Voilà la proposition du jour pour vos prochaines vacances. Attention, ça demande pas mal d'endurance, vous allez voir. Ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur une pépite du net type développement personnel pour devenir un homme avré ou encore une femme élégante et puissante. Bah là, vous allez être servi, hein, parce que c'est plus du level « je te vends un petit PDF fait à l'arrache pour t'apprendre en 10 leçons comment devenir la meilleure version de toi-même ». On va parler du MKP. Alors non, ce n'est pas le nouvel indicateur de la réussite d'une start-up, ni les initiales du nouveau cabinet de conseil de Macron. MKP pour Mankind Project. Projet humanité. Rien que ça, voilà. Génial, moi je me dis un projet peut-être qui met en place des leviers d'action sur les territoires pour favoriser l'écologie. Non, ça serait trop prévisible. Alors, on a bien une notion de recyclage et de déchets dans tout ça, et je vous laisse le soin de trouver par vous-même. Donc je clique sur la première vidéo de la chaîne YouTube officielle MKP et c'est Guillaume qui m'explique pendant 3 minutes son parcours. Guillaume est dans une démarche de coaching pour changer des choses dans sa vie. Je me retiens de ne pas arrêter la vidéo ici, non pas que j'ai quelque chose contre le développement personnel, mais parce que ça pue. Ça pue parce que derrière Guillaume, il y a un mur blanc avec quelques plantes vertes qui dépassent et je n'ai aucune confiance en un fond blanc avec des plantes vertes qui dépassent. Guillaume donc se demande ce que ça fait d'être dans un groupe d'hommes. Il s'inscrit à MKP, à la fin de la vague MeToo, je cite parce que oui, c'est bien connu, c'était une petite représentation de quelques mois, MeToo, hein, tout au plus, c'est pas comme si le mouvement existait encore et que le patriarcat était toujours aussi présent dans la société. Et alors, comme Guillaume le dit si bien, il ne sait pas trop à qui parler de ces sujets-là. Et vers qui se dirige-t-il pour répondre à ces interrogations? Un groupe d'hommes dans les bois pendant 48 heures. Ah, quoi de mieux qu'un thé en forêt entre couilles pour retrouver les sensations brutes et authentiques de la masculinité et débattre du bien fondé du mouvement comme MeToo. Bon, compréhensible dans le fond de vouloir débattre avec des hommes par peur d'être agressé immédiatement par ces femmes qui prennent tout l'espace de parole et qui ne l'écouteront probablement pas. Après tout, c'est bien connu, à part aboyer, on ne sait pas faire grand-chose et nous ne sommes pas ouvertes à la discussion. Et là, Guillaume nous dit, au bout d'une minute de vidéo, la manière dont je me suis lancée dans le MKP, oh, j'ai pas trop réfléchi, j'ai senti de la bienveillance. Ça m'a été conseillé par des personnes dans lesquelles j'avais confiance. Ah, Guillaume, tu pourrais être très étonné parfois de ce qu'un homme peut faire quand on lui donne sa confiance. Mais je n'en dis pas plus. Il poursuit par « Je sentais qu'il fallait que j'intellectualise pas trop. » Ah ! Mais oui, un homme, un vrai, c'est tout dans les tripes et l'instinct. Quelle idée de réfléchir à la démarche d'une dizaine d'hommes dans les bois. Après tout, un petit camping. Rien de mal à ça. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est une reconnexion aux éléments naturels, à la nature, à la terre, à l'eau, au feu, à l'air, à Bouddha, au chakra. Mais en fait, MKP, c'est une retraite de yoga. En rentrant de ce week-end, Guillaume retrouve sa compagne, réalise à quel point il l'aime et dit à la caméra avec un petit sourire qui laisse pas trop de place à l'imagination « J'étais tellement émue que j'ai eu du mal à le formuler avec des mots. J'ai eu des grands moments de tendresse quand je suis rentrée. » Je crois qu'on peut le dire, Guillaume, à Ken. Non, pardon. Pour rester dans la poésie des chagras, Guillaume s'est reconnecté avec le corps et l'âme de sa compagne. Mais en vrai, là encore, quoi de mal. Il part en week-end, il revient. C'est un homme nouveau. Bon. Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus? Bah oui, il reste encore une dizaine d'intervenants. Hein, Olivier, Arnaud, Stéphane, Jérôme, Jean-Michel. Une dizaine d'hommes blancs, cis, hétérosexuels. Ah non! Olivier nous dit « Je suis venu au nouveau guerrier. » Tiens, Macron a encore changé le nom de son parti. « Grâce à un ami. » Ah! Encore un ami de confiance et de très bons conseils. Et il enchaîne par « Que j'ai connu dans une association gay et lesbienne. » On y est. Le quota, les amis, le quota MKP, c'est pour tout le monde, sans distinction. Enfin, pour tous ceux qui ont ce très bon ami ou cette très bonne amie de bon conseil. On continue dans la poésie avec Olivier qui nous sort hein, « Faire l'expérience d'être un homme parmi les hommes ». J'ai presque envie d'en faire une épitaphe. Ça parle encore d'initiation, mais c'est toujours très flou et je n'ai toujours concrètement pas compris ce qui se passe dans ce mystérieux week-end, à part des échanges, nul doute enrichissants. Et comme cela a été répété plusieurs fois par les initiés, authentiques, des hommes, des vrais. Olivier ajoute, c'est un espace de travail, une sorte de parenthèse dans notre quotidien, mais qui nous renvoie en permanence à notre quotidien. Bon, on tourne en rond, hein, là, avec toute cette philosophie de comptoir. Peut-être que la vidéo qui s'intitule « Le week-end » va m'en apprendre plus. Alors, ça dure moins de 48 heures. C'est quelque chose qui est fait par les hommes pour les hommes. Oui, j'ai cru comprendre. Un voyage intérieur avec et parmi d'autres hommes, si c'était pas clair. J'ai presque envie d'abandonner, hein, un moment, parce que ça part de créativité. C'est pas le premier truc que je me dis quand on me propose un camping, mais soit. Un week-end secret, risqué, avec un bénéfice incalculable. Bah, pas si serein que ça, apparemment, de retrouver son être profond. Y a un participant qui conclut par « Je suis sortie de ce week-end avec une énergie inimaginable. » Et oui, la montagne, ça vous gagne. Un autre part de reconnexion à une forme de sensibilité. J'ai presque envie de croire hein, qu'au final, ça leur est peut-être bénéfique, cet entre-soi. Et éventuellement, ça peut leur permettre de réaliser que la recherche de la virilité n'est pas la solution. Alors évidemment, je ne suis pas tombée sur le Mankind Project par hasard sur YouTube à la suite d'un choix douteux de l'algorithme, mais grâce au podcast Défense de Filmer, très bon podcast d'ailleurs, créé par l'équipe de Brut. Donc avant d'aller écouter leur recherche sur le sujet, j'ai d'abord pris le parti de voir ce que proposait MKP pour, dans un premier temps, rire avant de pleurer, puis les deux à la fois. Après tout, qu'est-ce qui peut mal se passer dans le fait qu'un groupe d'hommes se retrouve 48 heures en forêt dans un lieu tenu secret défense ? J'ai envie de dire tout. Hein, tout peut très mal se passer. Et là, oh surprise, à l'écoute du podcast, on apprend que potentiellement nous avons affaire à une dérive sectaire qui participerait à une montée en puissance de l'idéologie masculiniste et des comportements sexistes, voire antiféministes. Mazette, j'entends. Qui aurait pu se douter que cette petite virée entre couilles dans la forêt pour griller des marshmallows et parler à cœur ouvert de sa dernière rupture cachait en réalité un stage masculiniste de 2 jours pour la modique somme de 550 euros.
Ah ouais, d'accord.
Ah oui, quand même. 2 jours en Corée, ça sent, tu penses, Mazette. Le prix à payer en plus pour Guillaume qui a pu hurler fièrement en retrouvant sa compagne, c'est qui le bonhomme ? C'est moi. Ah, les hommes qui témoignent leur expérience de MKP parlent de guerriers qui vont traquer leurs ombres et chercher ce qui n'est pas en adéquation avec eux-mêmes en se confrontant à leurs émotions pour enfin mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. C'est un peu le Poudlard Express réchauffé au micro-ondes où tout le monde fonce droit dans un mur dans l'espoir de devenir un nouvel homme. Silencio femme, Wingardium le pouvoir. Alors la journaliste Juliette Desormes interroge dans ce podcast, sa consoeur Jeanne Bergaoui, qui est tombée, selon ses propos, un peu par hasard sur ce sujet, en étudiant les dérives sectaires dans le milieu du bien-être et en lisant les rapports de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, alias la MIVIDU. Donc j'ai moi-même fait un tour sur le site pour constater les derniers chiffres du rapport d'activité 2021, publié en novembre 2022 et qui met en lumière les dynamiques sectaires en France. On assiste en effet à un accroissement de l'offre sectaire depuis la pandémie Covid-19 qui, d'après la MIVIDUL, a instauré un climat anxiogène qui a contribué à déstabiliser les personnes vulnérables. Parmi les 4010 saisines, on retrouve 173 dossiers sur le développement personnel, dont 54% sur le coaching. Le problème de ces week-ends, c'est que l'accord de confidentialité est respecté à la lettre, à part quelques rares témoignages et parfois du bout des lèvres, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'y passe. On sait qu'il y a une soirée organisée à la fin du week-end où les proches des participants sont invités à écouter les retours d'expérience. On retrouve les mêmes discours faits de fraternité, bienveillance, sécurité, rencontre de soi, etc. MKP prétend répondre à un besoin pour ces hommes d'avoir un rite de passage de masculinité, un rite qui serait absent, soi-disant, chez les individus éduqués par des mères dont les pères étaient absents, en souffrance au travail ou en quête de fraternité. Et il y a quand même 24 à 72 participants par week-end. Donc on est quand même loin du petit feu de camp avec une poignée de personnes dont je parlais juste avant. Et en France, ils sont 4000 à avoir participé à ce stage. et c'est récent, je vous rappelle que ça date de 2022, hein, les chiffres. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul 4000 x 550 euros. Donc pour en savoir plus, on a eu la chance d'avoir le journaliste Benoît Berthelot qui a pu s'infiltrer en 2017 à l'un de ses week-ends d'aventure. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver l'enquête en ligne qui semble avoir disparu pour des raisons obscures, mais il reste des traces grâce à d'autres articles qui reprennent des extraits de cette enquête et on en apprend un peu plus sur ces fameux week-ends. Donc il commencerait à partir du vendredi après-midi, donc un bon gros long week-end quand même, dans une grande maison dans le nord Pas-de-Calais, en Corrèze ou dans le Maine-et-Loire. Et donc une fois sur place, les participants n'ont plus d'identité, ils deviennent des numéros qu'on leur attribue à leur arrivée, puis plus tard ils sont rebaptisés par un nom d'animal. Ils sont fouillés par les hommes de l'organisation, ils sont privés de leur téléphone, de leur papier d'identité et de leur montre pour qu'ils puissent perdre la notion du temps évidemment. On leur demande de se déshabiller et de mettre un bandeau sur leurs yeux.
C'est bizarre.
C'est ouais, bizarre. C'est méga bizarre, ouais. C'est bizarre. Et tu payes 550 euros pour ça. Moi, je te fais ça gratuitement. Hein. Et je pense que tu prendrais plus de plaisir, d'ailleurs. Enfin, le journaliste raconte une scène archaïque. On arrive en file indienne et on enlève nos bandeaux. On voit un feu de camp de 4 mètres de haut avec toute une foule d'hommes qui dansent autour de ce feu, au son des tam-tams et en criant comme des guerriers. Non. C'est complètement étrange, mais quand on le vit, c'est en fait un peu exaltant. Tous les hommes qui ont participé à ce moment-là deviennent des hommes nouveaux. Donc, il me dit qu'il a été privé de sommeil, qu'il a été nourri de graines, qu'il a transporté un tronc d'arbre la nuit dans la forêt. Il a pris une douche glacée en comptant jusqu'à 60. Il s'est enduit de boue en poussant des grognements de mâle dominant dans une sorte de psychanalyse express en public où il a été questionné sur son enfance. Il y a un ensemble d'activités volontairement pensées pour être réalisées dans un rythme effréné jusqu'à amener un épuisement physique et psychologique. En plus des activités d'équipe, il y a aussi des exercices chelous quand même, type des phrases à compléter « Je suis un homme parce que… » trois petits points. « Je cède devant les femmes quand… » trois petits points. Bon, je vous laisse compléter les trois hein, si ça vous fait plaisir. On parle aussi de mise en scène du genre s'adresser à son père, à sa mère, sortir ses émotions, parler de sa sexualité, bon, danser encore autour du feu, se purifier à la sauge dans un sauna, ça apparemment c'est un rite amérindien, donc petite appropriation culturelle au KLM pour faire passer tout ça dans un aspect plus spirituel. Donc bref, c'est vraiment un beau bordel folklorique, absolument pas encadré, fait de violence psychique quand même, avec une obligation de silence en plus, et ben, le tout qui réveille ou génère chez certains des traumas forcément alors. D'où ça sort le Mankind Project ? Bah ça date pas d'hier, puisqu'il a été fondé en 1984 par des Américains, en réaction au féminisme. Évidemment, le discours que les fondateurs tenaient était le suivant, la société est en crise parce que les hommes ne trouvent plus leur place. Alors si je peux me permettre, moi je pense pas que les hommes trouvent plus leur place, parce que je pense qu'ils ont toujours su où elle était, c'est juste qu'ils n'ont pas trop envie de la partager. Mais bon, la promesse c'était « tout ira mieux quand les hommes auront réveillé en eux le guerrier qui sommeille ». Alors aujourd'hui, la Mividule lance une alerte par rapport à cette organisation, même si elle n'est pas qualifiée de secte. Elle coche quand même pas mal de mécanismes qui s'y apparentent, mais elle n'est pas considérée encore comme une secte. Dans les saisies, on peut lire le témoignage d'un participant anonyme qui dénonce une déstabilisation mentale avec des plages justement de sommeil entre 3 et 4 heures par nuit, des repas faits d'amandes et de raisins secs, le fait de se balader nu, l'interrogation sur l'enfance, la déstabilisation, la culpabilisation pendant une vingtaine de minutes par participant et la réactivation, en tout cas pour la personne qui témoigne de blessures psychiques. Bon, bref, on disait retrouver une forme de sensibilité, c'est pas trop à l'ordre du jour apparemment. Donc il y a des proches aussi qui signalent des changements de comportement brutaux, des violences commises et une communication qui serait réduite à néant. Donc c'est même pas que ça aggrave les problèmes de communication ou de discussion ou de débat, ça les anéantit. Donc en plus, c'est pas fini parce que les participants ont un espèce de suivi où on les appelle 3 jours après, 3 semaines après et 3 mois après pour faire le point sur leur évolution. Je dirais juste une énorme arène de dressage de Pokémon qu'on renvoie sur le terrain au combat, et c'est dangereux, hein, parce que malgré le fait qu'MKP sur son site se dédouane complètement de tout ce que ça engendre, et affiche même fièrement le rapport de la Mividule en première page, pour évidemment se défendre avec des arguments plus que limites ou inexistants. Donc je vous lis un extrait. Le MKP rejette le masculinisme car il promeut une masculinité toxique qui entretient une vision fausse, sexiste et paranoïaque de la crise de la masculinité. Le masculinisme est en opposition totale avec les valeurs promues par le MKP. respect de l'autre, égalité, non-violence, authenticité, responsabilité, intégrité, fraternité, ça fait beaucoup de « et ». L'association encourage la tolérance par l'accueil de l'altérité et de la diversité sous toutes ses formes de genre, d'âge, d'appartenance aux communautés LGBTQIA+, d'origine ethnique et sociale, de croyances philosophiques et religieuses, d'invalidité entre autres. Le MKP encourage et soutient les hommes qui veulent comprendre et maîtriser leurs émotions, exprimer leur vulnérabilité, savoir se remettre en question. Un homme mûr est celui qui prend conscience de ses talents, de ses ressources, mais aussi de ses limites, de ses difficultés humaines et relationnelles, et qui cherche à y répondre librement à la mesure de ses moyens avec le soutien d'autres hommes. Il y a aussi une réponse à la question qu'on se posait toutes, c'est faux. Pourquoi nouveau guerrier ? Si nous y avons adjoint le terme nouveau, c'est pour tourner le dos à l'image du guerrier violent tel qu'il apparaît dans l'histoire. Le guerrier du XXIe siècle combat ses propres démons. Les seuls démons dans le monde sont ceux qui courent dans nos propres cœurs. Voilà où la bataille doit être livrée. Gandhi. Aujourd'hui, la mission du nouveau guerrier est de se mettre au service du monde. Bon là, bah, ça part en couille et je pense que l'expression est très appropriée. Ça cite du Gandhi comme ça en plein milieu et puis ça parle de se mettre au service du monde. Donc, en gros, si je reprends les termes, c'est créer une armée d'hommes non-violents, authentiques, responsables, intègres, fraternels. Mais ma question, c'est pour aller affronter qui ou quoi et se mettre au service de quoi ? Quelles sont les causes ? C'est pas bien compliqué de voir que c'est un discours complètement creux, enrobé de belles formules pour simplement dire, de façon détournée, on redonne à l'homme sa place d'homme dans la société, donc on renforce encore et toujours le principe de genre et les inégalités que ça engendre. Et comme je sais qu'on va me dire « Nya, 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 mais tu tapes encore sur les hommes », ben sachez qu'il existe exactement les mêmes week-ends pour les femmes en France, et ça s'appelle « Sacrée femme ». Et si on soulève pas des troncs d'arbres, on dit les mêmes aberrations sur le corps sacré de la femme, réduit à ses organes génitaux et ses facultés reproductives, sous fond de spiritualité, mysticisme. Et ben le problème c'est toujours le même, hein, penser avec le genre et encore une fois, remettre la femme à sa place et l'homme à sa place. Donc pour conclure, moi je vais citer une petite phrase qui résume parfaitement ce que je pense de tout ça. C'est un intervenant dans le podcast de Brut qui s'appelle Francis Dupuy-Derry et qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec et qui dit de ses retraites entre hommes qu'elles sont dans un esprit masculiniste un peu revanchard face aux femmes avec une masculinité non déconstruite, non réfléchie, sans autocritique. Et que ça fait 140 ans qu'il y a des groupes comme ça qui se retrouvent dans la forêt à traîner dans la boue tout nu, à se tâter les testicules et à crier à la lune.
hors du temps, ici, dans ma maison. Des fois, il y a des gens qui traînent dans mon salon. Des fois, j'admire ces gens, leur courage et leur passion. Ces gens traînent sur eux des bouts de mon salon et traîneront encore dans d'autres dimensions.
Thank you. Les visages qui changent avec l'ombre.